nous allons enchaîner avec Véronique Racine, qui est du CADTM, qui est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Le CADTM ainsi que Survie lutte contre la criminalité financière, qui est la criminalité la plus dommageable contre l'émancipation des peuples, puisque cette criminalité passe par les paradis fiscaux, qui sont tout à fait tolérés dans notre monde. Donc, nous allons voir que la fraude fiscale empêche les peuples de se développer et permet à nos multinationales de prospérer très largement sous ces latitudes. On va enchaîner avec Artemisa Flores, qui est sociologue mexicaine et qui est également membre de Survie. Ensuite, nous parlerons avec Kusim Lamco, qui est le co-organisateur aux côtés de Odile Sankara de la caravane Tom 5, qui est tchadien, vivant aujourd'hui au Mexique, qui a résidé au Burkina Faso pendant la période de Thomas Sankara, qui a également résidé ensuite au Rwanda. Nous terminerons par Christian Mancassa, qui est de la Fédération des Congolais de la diaspora et qui évoquera la vie des Congolais avant le pétrole et après l'exploitation du pétrole par la société, notamment ELF. Voilà. Véronique, je te laisse la parole.
Bonjour. Donc, je suis militante au Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors, je suis là pour vous présenter un projet qui est en cours en Amérique latine et qui représente pour nous une véritable alternative à la mondialisation actuelle qui écrase les populations du Sud. Pour bien vous parler de ce projet, qui est un projet de création de Banque du Sud, je vais au préalable faire un petit détour par la dette. Vous expliquer en quoi cette mécanique a été générée par les institutions financières actuelles, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et les États du Nord y sont pleinement associés. Alors, comme Thomas Sankara, que nous venons d'entendre, nous avons au CADTM une double lecture de la dette. Nous avons une lecture économique. La dette est un outil qui appauvrit les populations au bénéfice des créanciers. Et nous avons une lecture politique. La dette est également un outil qui permet de maintenir sous domination des pays entiers, sous la domination de puissances économiques étrangères. En fait, ces pays-là ont perdu leur souveraineté, c'est un véritable néocolonialisme. Pour des commodités de langage, vous m'entendrez employer régulièrement pays du Sud, pays du tiers-monde, pays en voie de développement ou pays du Nord. Sachez qu'on n'a pas une lecture géographique de la dette. Il y a deux acteurs dans ce mécanisme-là. Il y a ceux qui subissent la dette et ceux qui profitent de la dette. Alors la dette, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner juste quelques chiffres, mais qui sont édifiants. En matière de finances, sur le plan purement financier, la somme est dérisoire, hein, surtout si on la compare aux mouvements financiers internationaux et à l'endettement mondial. La dette des pays du tiers-monde, des pays en voie de développement, c'est 2 850 milliards de dollars pour 85% de la population mondiale, soit 5 milliards d'individus. 2 850 milliards de dollars que je vous demande de comparer à la dette des États-Unis, qui représente 37 000 milliards de dollars, pour seulement 300 millions d'individus. Alors cette somme est dérisoire et pourtant, je reprends l'expression de Thomas Sankara, elle assassine, hein, la dette tue et elle tue en masse. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, a calculé que 30 000 enfants meurent par jour de causes qui auraient pu être évitées. Évitées si, justement, on avait utilisé les moyens financiers nécessaires à les sauver. Alors comment les institutions financières actuelles, donc Banque mondiale et FMI et les États du Nord, se sont associées dans cette mécanique assassine et comment ça s'est produit? Je ne vais pas refaire l'historique complet de la dette, on pourra y revenir si vous le souhaitez plus en détail, parce que nous sommes plusieurs à intervenir et donc voilà. Sachez simplement que les pays du Sud ont été pour très très peu les acteurs de cet endettement. En fait, ils ont hérité, si je puis dire, déjà de la dette coloniale, et le Burkina fait partie de ces pays-là. C'est-à-dire qu'on leur a laissé une dette qu'ils remboursent aujourd'hui, mais qui a été contractée alors, en leur nom, alors qu'ils étaient sous pouvoir colonial. Ensuite, les pays du Sud ont eu à subir deux événements pour lesquels ils n'ont absolument pas pu être acteurs. Le premier, c'est une augmentation considérable des taux d'intérêt opérée par les États-Unis à la fin des années 70, quand ils étaient en pleine crise économique. Et donc, pour arranger leur situation économique, ils ont augmenté considérablement ces taux. Et donc, ça a eu des incidences mécaniques sur l'endettement des pays du Sud. Le deuxième mécanisme qui a généré ce qu'on a appelé après la crise de la dette, c'est la dégradation des cours des matières premières. Et nous savons tous ici que le cours des matières premières, hein, par exemple le cours du coton, n'est bien sûr pas déterminé dans les pays du Sud, mais sur les places financières qui se trouvent elles-mêmes au Nord. Par contre, les institutions financières internationales et les États du Nord sont pleinement responsables de cet endettement. En fait, elles ont utilisé ce mécanisme-là pour soutenir des régimes des régimes qui étaient les alliés des pays occidentaux. Alors d'abord en période de guerre froide, mais ça continue aujourd'hui en période de prédation des ressources naturelles. C'était les alliés du bloc occidental. Alors ce sont des régimes dictatoriaux et notoirement corrompus. Et ça continue encore aujourd'hui. Malheureusement, les exemples sont excessivement nombreux. Pourtant, ces régimes-là ont violé les droits humains et ils ont détourné des sommes considérables au détriment donc du développement économique des populations en question. Elles ont obligé les régimes démocratiques, ces institutions financières internationales ont obligé les régimes démocratiques qui leur ont succédé à continuer de payer cette dette. Et pourtant, il existe une clause dans le droit international qui décrit ces dettes-là comme étant des dettes odieuses, c'est-à-dire qui n'ont pas à être payées. Elles exigent également des pays, depuis leur accession à l'indépendance, je vous l'ai dit, à rembourser cette dette qui est une dette coloniale. Il ne faut pas oublier que les institutions financières internationales actuelles sont totalement antidémocratiques et de par leur architecture en elles-mêmes. Déjà, bon, même si les termes sont un peu différents, mais c'est des détails, elles sont basées sur le 1 dollar égale une voix. Autrement dit, évidemment, plus on est riche et plus on a de force au niveau des droits de vote. Alors ça se traduit par exemple par les 9 pays les plus riches de la planète possèdent à eux seuls donc 50% des droits de vote, tandis que les 45 pays africains se partagent 5,4% des droits de vote. Ensuite, il y a une règle tacite non écrite, et puis alors là, en ce moment en France, on en entend un peu plus parler, qui est que le président de la Banque mondiale est toujours un citoyen américain. Vous savez qu'après la démission de Wolfowitz, Zolik a été nommé. Et là, on est en attente de décision pour la nomination d'un directeur au Fonds monétaire international pour lequel Strauss-Kahn donc, est candidat. C'est vraiment une règle qui correspond à une antidémocratie puisqu'ils se partagent le pouvoir, les États-Unis et les Européens se partagent le pouvoir. Ils ont beau prôner donc la bonne gouvernance partout où ils passent, en l'occurrence ils sont incapables de se l'appliquer à eux-mêmes, et c'est pareil, j'en veux pour preuve aussi le fait que nous, ici, citoyens français, on ne sait jamais ce que a dit et a voté le représentant de la France au sein de ces institutions financières internationales. Hein, beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas son nom. Alors maintenant, sur le plan économique, ces institutions ont utilisé le prétexte de l'endettement pour imposer ce que l'on appelle des plans d'ajustement structurel ou des cadres stratégiques de réduction de la pauvreté. En fait, ce sont des réformes économiques qui étaient supposées dégager les sommes nécessaires au remboursement de la dette, pas du tout à la satisfaction des besoins humains fondamentaux des populations en question. Alors c'est une libéralisation de l'économie, on pourra y revenir aussi plus en détail si vous le voulez tout à l'heure, une ouverture des marchés qui a permis aux marchandises du Nord d'envahir les marchés du Sud, hein, les marchandises subventionnées du Nord, et donc ça a partout eu des effets désastreux, ça a aggravé la misère, la pauvreté, le chômage a augmenté, le taux de scolarisation a baissé, le taux de mortalité a augmenté. Alors j'ai un chiffre là, en Afrique, le nombre de personnes devant survivre avec moins de 1 dollar par jour a doublé depuis 1981. En 1982, c'est la crise de la dette. Donc vous comprendrez donc que nous, au CADTM, on considère qu'une véritable alternative au néolibéralisme passe par la suppression pure et simple des institutions financières internationales telles qu'elles existent actuellement. Or, Il se trouve qu'en ce moment, la conjoncture est plutôt favorable aux pays en voie de développement. On pourra y revenir un petit peu plus en détail si vous le souhaitez. En fait, il y a depuis 2005 une hausse du cours de certaines matières premières, hein, sous la forte appel d'air de la Chine. Les États-Unis donc ont baissé leur taux d'intérêt, donc ce qui a un effet mécanique aussi sur l'endettement. Et les pays en voie de développement donc possèdent actuellement d'importantes réserves de change. Donc ils pourraient utiliser cet argent-là, s'ils le souhaitaient, s'ils avaient des régimes qui effectivement le souhaitaient, pour financer un fonds qui leur permettrait enfin de financer la satisfaction des besoins humains fondamentaux dans leur pays. Sur le plan politique, il y a également une conjoncture favorable, et elle s'exprime en particulier en Amérique latine, où un certain nombre de dirigeants, qu'on va dire progressistes, qui prônent, comme Thomas Sankara le prônait, une véritable souveraineté des populations, qui veulent défendre les cultures minoritaires, qui veulent effectivement une indépendance économique par rapport aux puissances du Nord, et elles ont été élues récemment, et donc elles sont en train effectivement de mettre en place des réformes, et de se réapproprier les ressources naturelles, de manière à pouvoir enfin appliquer les politiques qu'elles jugent indépendamment des institutions financières internationale. Il est à noter aussi qu'un certain nombre d'entre elles ont claqué la porte ou donc en quittant, hein, c'est le cas du Venezuela qu'il a annoncé donc qu'il quittait la Banque mondiale et le FMI. Et ils ont donc l'intention, ils se sont regroupés et ils réfléchissent donc à la création de cette Banque du Sud. Il faut savoir aussi que le Fonds monétaire international est actuellement dans une position d'affaiblissement. Nombre de ces pays ont profité quand même de ces réserves de change qu'elles avaient pour rembourser par anticipation leurs emprunts au FMI pour se débarrasser des dictats économiques qu'ils leur imposent. Nous, au CADTM, on conteste cette décision parce que malgré tout, ce sont des dettes odieuses. Ces pays-là ont été sous des dictatures et donc ils n'avaient pas à rembourser ces dettes-là. Mais en l'occurrence, le FMI est en ce moment en état d'affaiblissement. Alors cette Banque du Sud, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter comme alternative? Elle pourrait être vraiment démocratique en fonctionnement sur le projet de un pays, une voix. Elle pourrait effectivement ouvrir ses archives au domaine public, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les institutions financières actuelles. Elle pourrait aussi envisager de soutenir et de respecter les vrais accords et les vrais traités internationaux qui respectent les droits humains fondamentaux. Elle pourrait bien sûr remettre en cause le paiement de la dette, créer un cartel des pays producteurs de certaines matières premières pour éviter donc les fluctuations des cours en fonction de données qu'elles ne maîtriseraient pas. C'est en discussion actuellement et nous avons la chance d'avoir le fondateur du CADTM, Éric Toussaint, qui participe aux discussions qui sont en cours. Évidemment, c'est compliqué, c'est difficile et c'est pas fait. Pour conclure, je dirais que les institutions financières internationales actuelles ont démontré qu'elles avaient manqué à leur mission à tout point de vue. Elles ont prôné un modèle économique qui a en fait augmenté la pauvreté et les inégalités à travers le monde et la dette continue sa course folle. Pour un dollar qui a été emprunté en 1980, les pays en ont remboursé 8 et ils en doivent encore 4. Ça n'en finit jamais. Le transfert net financier, excusez-moi, on aime bien les chiffres au CADTM, le transfert net financier, c'est-à-dire tout ce qui est prêté aux pays du Sud, moins tout ce qu'ils remboursent, est négatif. Autrement dit, ils sont prêteurs nets de capitaux, aux pays du Nord. Même le rapport de la Banque mondiale le dit. Le transfert net financier de moins 90 milliards de dollars par an. Or, c'est également un chiffre du PNUD. Il a calculé qu'il faudrait à peu près 80 milliards de dollars par an pendant 10 ans pour financer la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Nous, au CADTM, nous considérons que ces institutions financières internationales doivent être supprimées, que la Banque du Sud est une alternative parce que les intérêts des populations sont supérieurs aux intérêts des créanciers. Voilà, merci.
Vous pouvez trouver les ouvrages du CADTM à l'entrée sur la table de presse.